peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alors, comment ne pas être surpris et même choqué à l'annonce d'une sanction si radicale et a priori si peu compatible avec l'idée de la grâce? Il y aurait donc des pécheurs endurcis, des méchants, sur lesquels Dieu ferait tomber son châtiment? Et ceux qui survivent seraient alors les bons? Notre Dieu ne serait qu'un Dieu de la rétribution? Ou pire encore, Jésus profiterait du malheur de certains pour les appeler à la conversion? Vision trop simpliste, trop manichéenne pour nous satisfaire. Et comme souvent, la Bible nous invite à une lecture plus attentive, pour ne pas privilégier seulement un aspect du texte. Elle nous invite à ne pas extraire et à isoler un verset. Mais elle nous invite aussi à nous laisser interpeller par ce qui nous semblait d'abord inacceptable, à prendre de la distance vis-à-vis d'événements qui, dans un premier temps, nous sidèrent ou peuvent amener à des réactions émotionnelles violentes et irrationnelles. Et on pourrait sans doute balayer d'un trait cette radicalité de la Bible en la justifiant par son contexte historique. Ne lit-on pas en effet dans l'évangile de Jean, au sujet de l'aveugle de naissance, cette question des disciples à Jésus: « Rabbi, qui a péché le plus, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap était couramment considéré à l'époque de Jésus comme la conséquence d'une faute. On était aveugle, boiteux, lépreux, parce qu'on avait commis une faute ou parce que les parents en avaient commis une. Alors, peut-on dire autre temps, autre mœurs? Pouvons-nous nous sentir concernés par les deux faits divers dont il est question dans la première partie de notre texte? Le massacre ordonné par Pilate de Galiléens faisant un sacrifice et la mort de 18 personnes écrasées par l'effondrement de la tour de Siloé? Eh bien oui, malheureusement, à travers ces deux faits divers très lointains, on est bien dans l'actualité d'aujourd'hui. Les faits divers, les événements tragiques sont toujours présents. On peut mourir du Covid, ou sous les coups d'un conjoint violent, ou sous les obus russes, ou la liste pourrait être très longue, des catastrophes qui ne cessent d'advenir. Et ce qui reste tout aussi présent, ce sont les questions qui peuvent alors se poser. Quelle est la part de responsabilité des victimes? Méritent-elles leur sort? Qu'ont-elles fait? Ces questions, elles peuvent paraître un peu incongrues peut-être, mais elles prouvent aussi qu'on est touché par l'événement. Et dans une époque de zapping médiatique, celle que nous vivons, où toujours un événement chasse l'autre, notre sensibilité parfois s'émousse. Mais revenons à cette question. Est-on coupable quand on est victime? Est-on plus coupable, plus grand pécheur, quand on meurt au cours d'une catastrophe que quand on y survit? Le malheur a-t-il un sens? Ces questions, Jésus nous les pose, comme il les pose à ses interlocuteurs dans le récit. Jésus nous interpelle, car il sait que ce serait en effet trop facile de se débarrasser de la réponse au motif que les victimes ont mérité leur sort. Car pour lui, la réponse est claire et elle s'oppose fortement, comme souvent, aux croyances de son époque. Non, nous dit Jésus, les victimes ne sont pas plus coupables que ceux qui ont échappé au malheur. Dans toute catastrophe, il y a aussi des enfants. Ne serait-il pas insupportable de considérer qu'ils ont mérité leur sort. Ne serait-ce pas cynique de penser que les bombes qui tombent sur une maternité, sur une école, ou tout simplement sur les civils, qui n'ont rien demandé, trouvent leur légitimité dans la faute supposée des victimes? Mais alors, comment comprendre l'avertissement de la faim ? Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Voilà qui est bien gênant. Car la condition, si vous ne changez pas d'attitude, peut suggérer que la culpabilité du pécheur est en effet la cause de son malheur, contrairement à ce que Jésus vient de dire auparavant. Et du coup, cela semble faire de Dieu un distributeur de châtiments et de Jésus un maître du chantage. Si vous faites cela, alors il vous arrivera ceci. Et pourtant, dans cet avertissement de Jésus, ce n'est pas la menace d'un destin tragique que je perçois d'abord. Le « vous périrez tout de même » renvoie sans doute à une mort plus spirituelle que physique. Et dans l'appel à changer d'attitude, je vois surtout un refus de la fatalité, une invitation à ne pas se résigner, à ne pas accepter que les pensées mortifères, les jugements hâtifs et simplistes, tout ce qui nous enferme, tout ce qui paraît si hâtif, tout ce qui nous éloigne de notre prochain, j'y vois une invitation à ne pas accepter que tout cela dirige notre vie. Il y a une autre option, mais une option urgente, changer d'attitude, se convertir. Pas une conversion au sens religieux du terme, ce n'est pas changer de religion, mais changer de vie. Changer pour tout faire, pour que l'égoïsme, l'indifférence aux autres, la soif de domination et de possession ne soient pas des moteurs de nos existences. Le récit de Luc se situe lors de la montée de Jésus vers Jérusalem. Le Christ rencontre à ce moment-là une forte opposition. La défiance est forte et ses appels à la conversion se multiplient. Alors, comment dans ce contexte difficile pour Jésus, comment faire bouger les lignes, ouvrir à une autre image de Dieu, non pas celle d'un Dieu figé dans une conception impitoyable de la justice, où péché entraîne inexorablement châtiment, mais ouvrir à une image d'un Dieu qui nous libère de nos enfermements, nous porte et nous tourne vers l'avenir, nous fait espérer, mais aussi nous appelle à l'action et à la responsabilité. Car oui, nous pouvons agir et appeler à une autre logique et à une autre attitude. Et c'est ce que nous dit la parabole du figuier, parabole qui suit la première partie du texte et qui est loin de ne faire que répéter de manière imagée l'enseignement du passage précédent. Même si les conclusions des deux passages se ressemblent, la leçon n'est pas la même. Car la parabole apporte un élément vraiment nouveau. Avec le massacre des Galiléens ou l'effondrement de la tour de Siloé, on tire un enseignement a posteriori des événements. Ils ont déjà eu lieu et on ne peut apparemment rien y changer. Sauf pour les survivants à changer d'attitude. Ce qui dit ainsi reste malgré tout un peu abstrait. Avec la parabole du figuier, au contraire, tout est encore possible. On est avant la section du figuier. Le vigneron ne nie pas le passé improductif de l'arbre, mais il plaide la cause du figuier et il demande pour lui un sursis d'un an. Et il ne se contente pas de cette prière. Tourné vers l'avenir, et sans doute porté par l'espérance, il s'engage à agir pour favoriser la production. Il s'engage à labourer autour du tronc, à enrichir la terre par du fumier. Bref, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les choses changent et que pour que l'arbre improductif donne enfin des fruits. Alors oui, mais comment agir pour nous aujourd'hui? Devant les catastrophes, l'action, tant celle des pouvoirs publics que celle des citoyens, consiste bien souvent à chercher des coupables, des responsables. On n'accepte pas l'éventualité de la mort. On ne peut supporter l'incertitude quant à ce qui s'est passé. On veut savoir pourquoi. Si la tour de Siloé s'écrasait aujourd'hui, on n'imputerait sans doute pas la mort aux victimes elles-mêmes. Alors péché. Mais on chercherait du côté de l'architecte, du côté des matériaux utilisés, du côté de l'entreprise. Et cette vigilance est évidemment, bien sûr, utile, nécessaire. Mais elle est aussi, d'une certaine manière, défiance et paralysie. Comment s'engager, en effet, quand les risques paraissent trop grands? Et comment avancer quand on est sans cesse tourné vers le passé? Jésus ne répond pas aux interrogations humaines concernant la présence du mal et de la souffrance, le pourquoi infini de la mort. Il réitère son propos d'une vie résolument tournée vers Dieu, vers un avenir meilleur, possible, meilleur que le présent, et illustré ici par la parabole du figuier. Oui, Seigneur, tu ne nous demandes pas de croire que tout sera pardonné sans effort de notre part, dans une grâce à bon marché. Mais tu ne veux pas non plus que nous vivions dans la crainte d'un Dieu vengeur. Tu nous veux vivants dans ta présence. Tu nous invites à agir, tourner vers l'avenir, confiants et responsables. Amen.